With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bienvenue ici dans On the Verge, un podcast qui parle de sexe au masculin, sans tabou ni jugement. Nous allons passer un petit moment ensemble avec vous, mon invité et moi. Moi c'est Al, j'ai 34 ans. Il me semblait intéressant d'entendre les hommes parler de leur intimité, de leurs tabous et fantasmes, de leur rapport au corps, à l'autre, le désir et la sexualité du couple aussi. Chacun de mes invités livrera sa vision et son rapport à sa sexualité, confiera son intimité, sans tabou, sans jugement. On the Verge commence maintenant. J'ai le droit de dire ton âge ?
Oui, avec plaisir. Oui.
Donc F, parce qu'on ne dira pas ton prénom, tu as 37 ans. Et on va parler, toi et moi, de ta sexualité. Tu vas me raconter un peu, juste avant que tu découvres la sexualité, on va parler de ça. Ensuite, on va parler de maintenant, comment ça se passe, ce que tu vis, comment tu le vis et comment la sexualité existe chez toi et quelle place elle prend. Et puis, on parlera de demain. Ok ?
Ok, très bien.
C'est toujours un peu intimidant de parler, de commencer comme ça, mais après, normalement, ça va aller.
Ok, je te fais confiance.
Quand t'es un petit garçon, c'est quoi le premier souvenir qui arrive quand tu penses ?
Le premier, c'est chez là où j'habitais avec mes parents. Il y avait une sorte de grande allée avec, qui séparait deux maisons avec des tuyas. Et moi, j'allais derrière les tuyas jouer avec ma voisine. Je ne sais pas quel âge j'avais à l'année près, mais peut-être 6 ans, 7 ans, tu vois, un truc comme ça. Bref, on se retrouvait derrière les tuyas, donc à l'abri des regards des parents, à la frère et sœur et tout ça. Et de fil en aiguille, ça a fini vraiment par le cliché du docteur, du touche-pipi d'enfant, quoi. C'est-à-dire qu'elle me montrait son sexe d'enfant, je lui montrais mon sexe d'enfant. On touchait, j'ai pas de souvenir vraiment, il n'y avait pas d'acte de pénétration ni quoi que ce soit, c'était de la palpation, c'était découverte du corps, de son corps, mais j'ai le souvenir par contre quand même d'être émoustillé par ce truc. Alors de la façon qu'on peut être, par laquelle on peut être émoustillé à 4 ou 5 ou 6 ans, donc ça reste gentillé, mais quand même mon premier moment de sexualité, ça remonte là à peu près, à jouer au docteur avec la petite voisine. Voilà, ouais.
C'est hyper mignon. Mmh.
Ça a commencé là. Et après, il n'y a pas eu grand-chose pendant, jusqu'à la puberté, quoi. C'est-à-dire, il y a eu cette parenthèse-là qui a duré, je ne sais pas moi. Après, les souvenirs qui suivent, c'est la puberté, quoi.
Qu'est-ce qui se passe à la puberté ?
Et à la puberté, bah,
ton corps change.
Les poils poussent, le sexe aussi, les hormones t'envahissent. Et puis là, c'est la première masturbation, en fait. Et ça, je me rappelle bien aussi. C'était l'époque, pas de stream porno, il n'y avait rien, mais il y avait les papas qui enregistraient le journal du Hard et qui enregistraient les pornos de Canal+, du samedi soir, du premier samedi du mois. Et j'avais attendu que mes parents se partent faire des courses ou je ne sais quoi faire pour être tout seul dans la maison, trouver la VHS qui correspondait à ce que j'imaginais.
Qui était bien cachée.
Et qui était bien cachée. Et voilà, je suis dans le canapé et je me rappelle très bien qu'au moment fatidique d'éjaculer, je sentais une sorte de petite légère brûlure dans ma verge et je pensais que j'allais faire pipi. Et vraiment, j'ai eu peur qu'il y ait un liquide de pipi qui sorte. Et puis j'ai vu que c'était pas ça, c'était autre chose pour la première fois. C'était pas très très agréable parce que tu sais pas à quoi t'attendre, tu connais pas cette sensation, et puis tu déflores sûrement ce canal aussi, donc c'est pas ça, ça. Je me rappelle que ça m'avait un peu brûlé, un peu surpris, et voilà. Et ça devait être 11 ans, 12 ans, un truc comme ça. Peut-être.
Qu'est-ce qui t'a motivé d'aller voir un porno et comment tu savais que ces images là allaient déclencher ça chez toi? Il y avait une curiosité?
Alors comment ça s'est fait? J'avais dû griller. Des images à l'insu de mon père, j'en sais rien, en me levant la nuit à un moment où j'aurais pas dû être là, et je n'ai jamais rien vu faire devant, mais toujours est-il que j'avais dû comprendre. Plus j'avais découvert aussi avant qu'il y avait des vieux Échos des Savanes, des vieux Playboy, des vieux Lui aussi qui traînaient dans les cartons de mon père, mais des trucs des années 70-80. Et donc là, voilà, j'avais compris qu'effectivement cas les hommes, parce qu'à cette époque-là, je voyais ça à travers le spectre de mon père, je ne sexualisais pas ma mère, je voyais que les hommes pouvaient s'émoustiller devant des images de femmes nues, que ça faisait partie du folklore apparemment pour s'émoustiller, donc... Et de fil en aiguille, j'ai dû comprendre qu'il enregistrait à l'insu des autres ce genre de film et que ça devait être ça qu'il fallait utiliser pour se masturber, quoi, j'imagine.
Ok.
C'est assez lointain quand
T'as
même.
T'as reproduit en fait.
Ouais, je pense que c'est la reproduction. Ouais. Comment... Après, c'est peut-être aussi des discussions, des résidus de discussions que t'as avec les copains. Je me rappelle d'être parti en classe de neige, en CM2, et les premières fois où j'avais entendu parler de sperme, et des trucs comme ça, tu vois, dans le dortoir, quoi, des gamins qui parlaient de sperme, je disais, ah bon, mais c'est quoi? Et puis avec les mots d'enfant, hein, je crois que je n'aurais pas les restituer aujourd'hui, mais ouais, ça t'éveille la curiosité. Et puis peut-être que dans ce genre de conversation, il y en a qui ont parlé un peu d'images de femmes nues ou de pratiques de leur père, j'en sais rien. Mais en fait, ça se construit comme ça par petites bribes jusqu'au moment où tu comprends que tu peux avoir accès à ces images de caractère pornographique. Et puis même si elles étaient difficiles d'accès à l'époque parce qu'il fallait quand même filouter le père et récupérer la cassette et faire ça,
c'était un vrai parcours du combattant.
C'était un parcours du combattant, ouais.
Tu l'as mérité.
Ouais, ma première éjac. Ouais, non, c'était ça, je crois, la première masturbation. Puis après il y a eu de longues années le classique des gens de ma génération, hein, c'était les catalogues de la Redoute, les trois Suisses de la maman, où on allait dans les pages lingerie en espérant trouver le maximum de nudité dans les pages lingerie. Et puis voilà, après c'était ça la deuxième période, quoi.
C'est plus facile maintenant, hein.
Ouais, maintenant c'est plus facile, ouais. Mais je sais pas si c'est un bien, j'en sais rien, j'ai pas de jugement par rapport à ça. Ce qui est sûr, c'est que je me rappelle très bien quand j'avais mis cette cassette VHS dans le magnétoscope, la première image, c'est donc le journal du Hard, et c'était une sorte de grande blonde archi siliconée avec des faux ongles immenses, qui était dans une baignoire en train de se masturber toute seule. Et j'avais trouvé ça crade, en fait. J'avais trouvé ça trop trash. Et ça ne m'avait pas excité. Il a fallu que j'attende après le film, qui était un peu plus romancé, un peu plus écrit, même si ce n'était pas du grand cinéma, mais c'est quand même l'époque où Canal produisait encore des pornos un peu scénarisés, etc. Et où là, j'avais ressenti un peu un émoustillement, mais je trouve quand même il y avait un côté un peu trash, quand même. Quand t'as 11-12 ans,
ouais, c'est...
le côté Saint-Siliconais, le machin, les meufs en plastique et tout, t'es pas forcément préparé à ça, quoi. C'est pas forcément le genre de corps que tu t'imagines trouver. Donc voilà, c'est la première masturbation, en tout cas, elle remonte à là.
On parlait de sexualité facilement chez toi ou pas?
Ouais. Chez moi, la sexualité, la drogue, enfin tout ce qui pourrait être un peu considéré comme des sujets tabous était quand même évoqué assez facilement. Plus facilement avec le père qu'avec la mère, parce que j'étais un garçon aussi. Je pense que mes sœurs ont plus eu le sujet, ont plus évoqué ce sujet-là avec ma mère. Mais c'était assez simple, avec des mots qui correspondaient à ma tranche d'âge. Mais en tout cas, ceci dit, je dis ça, mais j'ai pas été voir mes parents en disant « Hey, cet après-midi, quand vous êtes revenu de votre balade, je me suis masturbé en volant une cassette VHS à papa. » Hein. C'était quand même un interdit, mais par pudeur, pas par... Mais en tout cas, le sujet en lui-même de la sexualité n'était pas un sujet tabou.
Ok, donc tu avais des questions, tu pouvais les poser, tu avais des réponses.
Ouais, si ce n'est que je ne les posais pas, je crois. Enfin, en tout cas, pas à la puberté, quoi. Parce que c'est quand même un âge où tu es hyper mal à l'aise avec ta sexualité, où tu ne sais pas trop ce que tu veux, où tu as l'impression quand même que c'est un interdit, que tu es trop jeune pour le faire, que personne ne comprendrait, que tu es excité tout le temps. À partir de 11-12 ans, quand les hormones te prennent, c'est fini. Après, tu lâches plus, quoi. Il y a un pic comme ça, hormonal, entre, je sais pas, 11 et 16-17, c'est une horreur, quoi. T'as envie de te branler. Quand t'es un mec, la moindre image, même light, quoi. Moi, je voyais des copines de ma mère qui venaient boire le café, qui étaient genre juste en tailleur de l'époque, ou j'en sais rien, tu vois. Mais truc, pas du tout des tenues ostentatoires, sexy, hein. C'est des mères de famille, de province, pas forcément très belles. Mais ça suffisait largement à m'émoustiller comme un malade, quoi. Le cours de sport avec les copines, même en short, quoi, même pas moulant, etc. Tu voyais la moindre... T'essayais de gratter un petit peu des images, machin, c'était ultra érotique, quoi. Donc t'es excité un peu pour un tout et un rien, et t'as l'impression que c'est un peu sale, d'être autant excité tout le temps. C'est impossible, à cet âge-là, de le dire à ses parents, donc les questions, tu les poses pas, quoi.
Et t'en parles avec tes copains?
Non. Mais même aujourd'hui, je parle pas trop de... Bon, aujourd'hui, ce sera la suite du chapitre, Même aujourd'hui, j'en parle pas trop de sexualité avec mes copains.
Ok.
Ça reste intime, pas tabou. Je peux parler techniquement de sexualité, mais par contre, raconter ma sexualité avec tel ou tel partenaire, dire moi comment je le vis, etc., une fois que j'ai dit c'est super bien ou c'est moyen ou c'était naze, j'ai pas plus envie que ça de rentrer dans le détail, quoi.
Ok. T'es adolescent et donc t'as envie de te branler tout le temps.
Comme tous les adolescents, je crois.
Comme et probablement aussi. Beaucoup d'adolescents et adolescentes, certes. Comment ça se passe avec les filles ?
Bah, l'adolescence, c'est long. Si on prend le tout début... Bah, mes premières amourettes, c'est les amourettes classiques, désexualisées, à base de lettres d'amour platoniques, etc. Et après, les premiers flirts, les premiers moments où tu découvres un peu le corps de l'autre... Avant le premier acte en lui-même, il y a eu des bisous, il y a eu des petites caresses et tout, mais vraiment le moment, tu vois, où la fille se dénude un petit peu et où tu as le temps de découvrir des choses, mais sans forcément aller jusqu'au bout, il n'y a pas eu beaucoup de ça, je crois. J'ai pas beaucoup le souvenir de flirt sexué, quoi. Je suis passé directement du flirt d'enfant à la première fois, il n'y a pas eu vraiment d'entre-deux. Je crois.
Et alors, cette première fois ?
Bah,
t'avais quel âge ?
J'avais 15 ans. C'était l'été entre mes 15 et mes 16 ans, je crois. Donc, c'était l'entrée en seconde. J'avais une amoureuse que je convoitais depuis longtemps au collège. Et j'étais persuadé qu'elle voulait pas de moi. Elle sortait avec un mec super beau et tout. Ça collait pas. Et puis, finalement, au moment où j'avais complètement lâché l'affaire, c'était hyper romantique. Parce que c'est elle qui est revenue vers moi, qui est venue me chercher dans un bar, qui m'a dit « il faut que je te parle ». On s'est parlé, on s'est mis ensemble. Et puis quelques mois après, ou je sais pas, mois après, on s'était retrouvés à cette époque-là. C'était pas évident de se retrouver, de trouver un endroit neutre pour aller faire cette affaire.
Pas de téléphone, pas de choses
comme
ça.
Ouais, c'était galère, quoi. Ouais, il fallait tomber sur la mer pour avoir la fille au téléphone et tout. Puis il y avait une soirée, j'avais un pote qui organisait une grosse soirée chez ses parents qui étaient partis en vacances. Mais il avait invité, 40 personnes. Enfin, c'était un peu grosse fête n'importe quoi. Et à un moment, on s'est éclipsé dans sa chambre qui ne fermait pas à clé. J'avais pris un meuble, une sorte de bibliothèque, je l'avais fait coulisser jusqu'à devant la porte pour essayer de créer une barrière. Sauf qu'on a commencé à faire le truc assez naturellement parce qu'on s'aimait, on était amoureux l'un de l'autre, donc c'était assez doux, assez naturel, très respectueux. Ouais, naturel, je dirais. Sauf que en plein. Je sais même pas si la pénétration avait commencé, mais bon, en tout cas, tout le reste était déjà consommé. Et il y a évidemment des petits malins qui avaient vu qu'on avait disparu de la soirée. On commençait à essayer d'enfoncer la porte, à défoncer la bibliothèque. La bibliothèque s'est éclatée par terre. Il a fallu que je me lève, que je remette mon froc, que je leur dise de dégager. Et, finalement, après, on a eu une bonne demi-heure tranquille où on a pu faire notre affaire. Et c'était pas inoubliable d'un point de vue sensoriel parce que, tout comme la première masturbation, tu découvres... En tout cas, je parle pour moi. Il y a peut-être des gens qui ont vécu des premières exceptionnelles, mais tu découvres et tout. T'es un peu angoissé, mais finalement... comme c'était avec une fille dont j'étais amoureux, que je connaissais bien, voilà, ça s'est fait, en tout cas psychologiquement, dans des très bonnes conditions, pour elle comme pour moi, je pense.
C'était sa première fois aussi ?
Ouais, c'est sa première fois aussi. Ouais. Je crois que j'aurais difficilement imaginé autrement de faire ça avec une fille. Ou alors si, le fantasme de la fille qui a 10 ans de plus et qui va t'initier, quoi. Ça aurait pu faire partie de mes...
La mère des copains en tailleur.
Ouais, peut-être la mère des copains en tailleur, ça aurait pu. Mais en tout cas, une fille de ma tranche d'âge, là, elle avait pile poil mon âge. Bon, c'est un âge où, de toute façon, tu fréquentes souvent des gens qui sont dans les mêmes classes. Mais quelqu'un du même âge qui aurait déjà eu un mec, deux mecs, trois mecs et machin, je sais pas, je crois que j'avais encore à cette époque-là un truc un peu exclusif qui fait que ça me paraissait... C'était ma première grande amoureuse et j'étais son premier grand amoureux et ça me paraissait logique de le vivre comme ça, quoi, en fait.
Vous êtes restés longtemps ensemble ?
Bah, tout le lycée, ouais.
Ah ouais, 3 ans.
Ouais. Après le moment de bifurquer vers les études supérieures, on s'était revu une fois ou deux pour un ultime revival et puis après ça s'était éteint, quoi.
Et du coup, cette sexualité que vous avez poursuivie au lycée ensemble, ça s'est passé comment ?
Bah, c'était assez débridé. Ouais, moi j'ai une théorie là-dessus, c'est que les filles, en tout cas que j'ai rencontrées, hein, je parle pas de des filles en général. Quand tu découvres ta sexualité avec quelqu'un avec qui t'es complice, que ça dure dans le temps et que t'as un âge aussi où t'expérimentes et finalement les tabous, je trouve qu'ils sautent assez facilement. Enfin, en tout cas, moi, les deux filles, j'ai eu deux filles vierges dans ma vie, donc elle où j'étais vierge aussi, puis quelques années plus tard, une autre. Et les deux fois, ça a duré longtemps. Et les deux fois, c'est des sexualités qui, pour notre âge, je trouve, avec le recul, était quand même très débridée, assez hard, où finalement il n'y avait pas beaucoup de tabous et où on expérimentait quasiment tout ce qui nous était donné d'expérimenter à cet âge-là, quoi, on va dire.
Tu peux donner des exemples ou pas ?
Bah non, mais dont la pratique anale assez rapidement, le fait d'utiliser des objets, le fait de baiser dans des endroits insolites, le fait de le trash talking, tu vois, qui est pas forcément évident quand je me remets dans le contexte quand t'as 17 ans. Et en fait, voilà, je me rappelle qu'on une vacances où mes parents avaient, du coup, on était partis avec ma copine, nous avait suivi en vacances. On avait une petite dépendance et tout. Je me rappelle, pendant la nuit, j'étais parti chercher des objets, tu vois. On n'avait pas de sextoy à l'époque. Et j'avais trouvé, c'était une maison de location, j'avais trouvé des salières, des poivrières et tout. On avait joué avec ce truc-là. Mais on y allait, quoi. On testait le truc. Et puis, même dans l'expression de nos fantasmes, on était assez libre là-dessus, quoi. Voilà. Donc, c'était des sexualités assez débridées, enfin, de mon point de vue, hein, plutôt épanouies et exclusives aussi. Donc, c'était cool. Et qui prenaient fin assez naturellement au bout de 2-3 ans parce que c'est des âges où tu n'as pas forcément non plus la matière pour renouveler tes fantasmes, pour renouveler ta sexualité. Donc, c'était 3 ans assez intense, à beaucoup baiser.
Et du coup, à ce moment-là, ta libido, elle est au top, c'est-à-dire que tu as tout le temps envie.
Ouais, bon, ça a jamais vraiment changé au cours du temps. Mais ouais, grosse libido et manière de baiser un peu différente d'aujourd'hui parce que sûrement plus gauche et plus physique, quoi. C'est-à-dire l'énergie que tu as à cet âge-là fait que tu es là un peu à pilonner comme un lapin autant que tu peux. Et puis après, au fur et à mesure que les années passent, tu comprends que la sexualité, c'est pas que... un truc physique où t'es là défoulé comme un lapin pendant une heure.
Et ton rapport à l'orgasme à ce moment-là, il est comment ?
Nul. C'est-à-dire que j'ai pas de conscience de l'orgasme à ce moment-là, je crois. Mais elle est récente, moi, ma conscience de l'orgasme, hein, masculin.
Ok.
Et puis je crois qu'elle est inexistante chez pas mal de gens, d'ailleurs. Mais parce qu'on confond souvent éjaculation, enfin, de mon point de vue, hein, je me trompe peut-être, mais éjaculation, qui est quelque chose d'assez mécanique, finalement. Hier, moi, je suis chez moi, je me masturbe, je vais éjaculer en 30 secondes, j'estime pas que parce que j'ai éjaculé, j'ai eu un orgasme. Déjà, ne serait-ce que le terme de jouir, je trouve qu'il est vachement surévalué par rapport à ce qui s'est réellement passé, quoi. Et à ce moment-là, quand je suis ado, j'estime qu'une fois que j'ai éjaculé, ça va, j'ai fini mon affaire, et propre plaisir, finalement, il vient plus dans le visuel, dans le fait de voir... la fille en levrette, dans le fait de voir son corps, de voir ses seins se balancer, de voir, c'est plus une excitation encore adolescente de qui revient un peu au premier lui que tu mates ou machin, quoi. C'est en fait ça, là tu le vois en vrai, quoi. Mais en fait et même l'orgasme de mes partenaires, finalement j'y prêtais pas une attention folle, quoi. Je devais y faire attention, après c'est des souvenirs qui sont relativement lointains, mais ça a quand même plus de 20 ans. Je crois que c'était pas non plus une obsession, je me posais pas la question, puis les filles de cet âge là non plus n'étaient pas là à savoir réellement ce que c'était leur orgasme et savoir si elles avaient vraiment eu un orgasme ou pas. Donc...
c'est plus la performance et le côté un peu marrant de faire ça à droite, à gauche.
Ouais, je me rappelle une fois cette copine avec qui je m'étais dépucelé, elle rentre dans ma chambre, elle ferme la porte derrière elle. Je viens à sa rencontre et elle se met à genoux et elle me taille une pipe comme ça. À un moment un peu imprévu où je m'y attendais pas. Et ça, je sais que c'était resté comme un truc hyper... un fantasme pour moi à cet âge-là. C'était ça, quoi. Ces trucs un peu imprévu machin. Après, la finalité, qu'il y a un orgasme, pas un orgasme, c'était plus de vivre des trucs un peu insolites. Et j'avais pas forcément aller après m'en vanter. C'était ça, c'était le fait de faire des choses, dans des bars... Lui la masturber dans un bar, tu vois, ce genre de truc un peu interdit.
Et après, on va parler du début de ta vie sexuelle après cette jeune femme. Donc là, tu as ton bac, t'en vas faire tes études.
Ouais, bah là, il y a eu un long tunnel.
De solitude.
Solitude, ouais, où j'ai commencé à passer à autre chose, à faire beaucoup la fête, à voir beaucoup les copains, à prendre des drogues. Le cul était devenu un peu secondaire. Un peu mal dans ma peau, le passage de chez mes parents à la vie seule, en appartement. J'ai fait un peu nimp et gros laisser aller. Et du coup, le cul a un peu disparu pendant un an ou deux. Alors que c'était l'âge où je m'étais dit, tiens, 20 ans, c'est pile poil ce moment-là où on va pouvoir baiser tout ce qui bouge et ça va être trop bien. C'est la liberté, on est jeune, machin, c'est la fac, il va y avoir des centaines et des milliers de meufs sur le campus, en fac de lettres. Enfin, il y avait tout était là pour... voilà, et ben rien en fait, quasiment. Et jusqu'à la rencontre d'une, bah de la, de la, je parlais d'une une deuxième fille dans ma vie qui était vierge quand de cette jeune fille qui avait 3 ans de moins que moi et rebelote pour une histoire assez longue de 2-3 ans. Et c'était sensiblement, en fait, honnêtement, il n'y avait pas un énorme gap par rapport à la sexualité que j'avais eue au lycée, quoi. Elle a en plus le même type de morphologie que la première, c'est-à-dire poitrine très opulente, même genre de corps. Donc en fait, j'ai reproduit plus ou moins, enfin on a reproduit ensemble, plus ou moins la sexualité que j'avais eue avec mon ex d'avant. Il n'y a pas eu un énorme gap. Le gap, il s'est fait, je suis arrivé à Paris et...
À quel âge ?
À 22 ans, 21-22 ans. Il y a eu un petit moment d'adaptation et puis il y a eu l'apparition des premiers sites de rencontres qui étaient gratuits, qui étaient faciles d'accès. Et ça a déclenché là une deuxième phase dans ma sexualité, c'est-à-dire une phase un peu plus consumériste, même si j'aime pas ce terme. Oui, quand tu es censé faire un site de rencontre et que tu décrètes dès le départ ne pas chercher l'amour, a priori c'est plutôt une démarche consumériste qui a duré assez longtemps quand même là.
Combien de temps t'es resté sur les sites comme ça ?
Pas tant sur les sites, en fait d'avoir essayé peut-être sur 2 rencontres un site et puis après je me suis rendu compte que après via le boulot, via d'autres occasions en fait qui m'ont en fait juste remis le pied en selle où j'ai découvert une sexualité un peu plus aboutie, un peu plus adulte et les plans cul en fait, c'est-à-dire jusqu'à présent en fait, j'avais pas vraiment eu de plans cul. Derrière bah j'ai pris un peu la confiance, j'allais draguer plus facilement, le cul est redevenu assez important dans ma vie. Et puis après ça passait plus par des sites de rencontres, ça passait par des collègues de travail, ça passait par des rencontres, des impromptus dans des bars, dans des trucs, mais où là, je suis rentré un peu dans une phase du parisien moyen aujourd'hui, je dirais, qui est célibataire et qui vagabonde régulièrement comme ça, et ça a duré... ça a duré quasiment 10 piges, quoi. La phase de séduction se faisait essentiellement sur le lieu de travail. Effectivement, derrière, on allait soit de façon tout à fait classique chez l'un ou chez l'autre pour consommer cette séduction. Et ça se faisait assez simplement, même si effectivement, parfois, le message du fait que ce soit un plan cul n'était pas passé suffisamment clairement. Il y a eu quelques dérapages de filles qui se sont un peu amourachées, qui ont donné lieu à des scènes, à des petites crises. Bon, voilà, mais bon,
ça s'est jamais fait dans l'autre sens ? Ou toi, t'avais envie ? Non.
Non, mais c'est pas par prétention, parce que se prendre des vents ou être éconduit, ça a dû m'arriver. Mais en tout cas, dans le côté, je me fais un film sur ce qui pourrait se passer avec une fille, et en fait, je me rends compte que je me suis trompé. Je me l'accorde pas, en fait, cette incertitude-là. C'est-à-dire que quand j'y vais, ne serait-ce que quand je vais embrasser une fille la première fois, il y a un nombre de signaux qui sont tellement au vert que c'est évident qu'il faut y aller, quoi.
C'est quoi les signaux ?
Bah, c'est des regards, c'est des paroles, c'est une façon de venir te voir dès qu'elle a 5 minutes, c'est une façon de... Un truc où à un moment il y a un faisceau, il y a un faisceau d'indices qui fait que tu dis ok, la porte est grande ouverte, allons-y. Mais tant qu'elle n'est pas complètement ouverte à 100%, j'ose pas y aller.
Ouais, tu fais pas comme Jean-Claude Duss sur un malentendu.
Non, ça je fais pas parce que un peu orgueilleux et puis j'ai pas envie d'importuner en plus. Donc tu te dis ouais, c'est quand même, j'imagine que pour une fille, moi j'ai des copines qui me racontent parfois des mecs qui se sont fait des films tout seuls et qui commencent à s'approcher pour leur passer la main dans les cheveux ou leur rouler une pelle et en fait ce moment-là pour une femme, je me dis si j'étais une femme, ça me gênerait vraiment en fait ce moment. Je le trouverais vraiment très très déplaisant. Tu te fais le film, tu dis ah, j'ai dû lui laisser des indices, j'ai dû lui faire croire que tu culpabilises et tout. Donc j'ai pas envie de mettre une fille dans cet état d'esprit-là. Donc c'était vraiment quand vraiment, tu vois, en gros, elle me regardait avec les yeux, genre, vas-y, embrasse-moi, s'il te plaît. Il se trouve qu'en France, je trouve encore beaucoup, même à Paris, c'est souvent quand même encore au mec de faire ce putain de premier pas du baiser, etc. Bon.
T'aimerais que ce soit l'inverse ?
Non, je suis juste étonné. À l'heure de la parité et du fait que, voilà, moi, les hommes, je pense, sont tout à fait prêts à accepter, en tout cas, les hommes modernes, me semble-t-il, prêts à accepter que les femmes fassent le premier pas. Tant qu'il est fait de façon respectueuse, ce qui fait que non, je me suis jamais fait de film. Et puis comme je te dis, au bout de 2 rendez-vous, je sais si je vais tomber amoureux ou pas. Donc dès le deuxième rendez-vous, ou même dès la première baise en fait, en sortant, je sais si je vais tomber amoureux ou pas, quoi.
Et dans tous ces dates-là, t'as pas un exemple justement de quelque chose d'un peu soit inoubliable, soit au contraire un peu déceptif.
Déceptif, donc il y a eu cette fille à qui j'avais rencardé sur internet, qui est venue près de chez moi, on a picolé un peu, il s'est avéré qu'elle était très bavarde et qu'elle disait plein de conneries et qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde et qu'au moment de passer au lit, on n'était toujours pas sur la même longueur d'onde, le contact de sa peau ne me plaisait pas, etc. Et qu'avant même, alors qu'on était tous les deux nus dans un lit, dans la force de l'âge, j'ai coupé court, quoi. Je lui ai dit, écoute, je suis désolé, mais on va s'arrêter là.
Elle l'a pris comment?
Je l'ai trouvé assez, gentleman. Je l'ai trouvé assez forte quand même, parce que c'est quand même une situation où moi, on me l'aurait faite, je l'aurais potentiellement mal pris. Mais déjà là, j'avais pas le choix. C'est-à-dire, en fait, de toute façon, j'arrivais pas à être excité. Donc, je préférais arrêter les frais avant de consommer et de super mal consommer. Et c'est encore pire, quoi. Une fois que t'es dedans, tu dis maintenant faut aller au bout. Donc je me suis dit on va éviter.
Donc elle s'est rhabillée.
Elle s'est rhabillée. Elle l'a pris avec philosophie. Ça se trouve elle a pensé un peu la même chose de moi. Hein. Donc ça s'est fait sans esclandre, quoi. Elle a été plutôt bien là-dessus, plutôt cool. Et dans le domaine déceptif, c'était un truc qui était hyper excitant sur le papier. Une nana comme ça que je rencarde pareil sur internet et je lui dis donc on s'était jamais vu hein, dans la vraie vie. Moi elle avait dû voir deux photos de moi. Moi, j'en avais vu plus d'elle et je savais qu'elle était jolie et je lui dis voilà, moi, un de mes fantasmes, c'est d'aller chez une fille, enfin, ou qu'elle vienne d'ailleurs chez moi. Et on n'a jamais bu un verre, on n'a jamais travaillé ensemble, on ne s'est jamais croisé à une soirée. On se retrouve, je te bande les yeux et je te baise. Et donc, la fille, je la branche un peu sur cette idée-là, on s'y rendit, elle est un peu mollo parce que ça peut être un peu violent comme idée. Et puis, au début, je vois qu'elle botte en touche et tout, je me dis bon. Peut-être que j'étais un peu trop loin de lui parler de ça, c'était un peu rapide et tout. Puis une heure après, elle revient me chatter, puis elle me dit écoute, j'ai repensé à ce que tu m'as dit et réfléchis à ta proposition. En fait, je trouve ça cool, vas-y, on le fait. Genre, il était minuit. Je me dis moi, l'excitation était un peu retombée. Je me dis je le fais pas. Allez, bam, je suis passé sous la douche, je suis parti. C'était pas très très loin, c'était à 3 stations de métro. Je suis allé chez elle, elle m'avait filé les codes, les trucs. Je suis monté, elle avait fait ça super bien. Elle avait laissé la porte entrouverte, elle était dans sa chambre. Elle avait laissé un bandana sur le poignet de la porte de sa chambre. Elle était dos au mur, en petite culotte et en débardeur blanc. Et je suis arrivé. Bon, je l'ai rassuré très vite avec ma voix en lui disant voilà, c'est moi, je suis pas un psychopathe, je te veux pas de mal. Merci de m'accueillir et tout. Et puis, une fois que la confiance était partie, je lui ai bandé les yeux et on a commencé à se déshabiller et à faire notre truc, quoi, et à baiser. Et puis dans le feu de l'action, après, le bandana n'arrêtait pas de se casser la gueule et tout. Donc elle m'a demandé si elle pouvait le retirer. Je lui ai dit bah oui, tu peux le retirer, ça va. Et puis il se trouve qu'elle était jolie, qu'elle m'a trouvé jolie et qu'on a continué à baiser, que c'était cool. Mais en fait, ce qui était marrant, c'est que le fantasme en lui-même, ça pour le coup, c'est vraiment un fantasme que j'ai vécu, de en fait, baiser une pure inconnue, comme ça peut être un fantasme d'ailleurs souvent qui se retrouve chez les femmes, je trouve, qui est plus dur à réaliser parce qu'il y a la peur physique, etc. Mais de se retrouver face à un illustre inconnu et bam, d'y aller sur une pulsion. Et donc il a été vécu ce fantasme, et en plus très correctement, dans un joli appart, avec une jolie fille, qui écoutait de la bonne musique, qui avait des bonnes bières à proposer après la baise, qui, enfin voilà, elle avait tout pour elle. Mais déceptif dans le sens où voilà, tu te fais tellement une image énorme du fantasme qu'en fait, une fois que tu le vis, bof quoi.
Du coup, la conclusion, c'est de ne pas vivre ses fantasmes.
Je sais pas. Je me posais la question très récemment avec une copine. Je pense que certains fantasmes méritent le coup d'être, enfin, méritent d'être vécus, d'autres non. Le problème, c'est de savoir lesquels méritent d'être vécus et lesquels méritent de pas l'être.
Et quels sont tes fantasmes là aujourd'hui ?
Là aujourd'hui, j'ai des fantasmes de presque quadra, c'est-à-dire être amoureux d'une femme avec qui la baise est hyper chouette. En espérant que ça reste le chouette le plus longtemps possible, et de fonder un foyer, de machin, mais tu vois, y a le fantasme, c'est con, mais le réel fantasme, il est là, quoi. Ce qui fait que ça annihile un peu les fantasmes que tu peux avoir à 25 ans, où tu te projettes pas dans ce genre de vie, et où là, tu peux te dire, allez, vas-y, les plans A3, les plans A4, les orgies, les trucs. Mais en fait, tous ces trucs-là, je les mets dans un coin, et potentiellement, je les ressortirai après. Justement, peut-être quand, avec cette amoureuse avec qui j'aurais fondé un foyer, on se fera peut-être un peu chier dans le cul. Et où il faudra peut-être justement ressortir du tiroir ces vieux fantasmes et les miens et les vivre. Parce qu'au final, on n'aura plus grand-chose à perdre, on aura fait ce qu'on avait à faire. Et si, il y a toujours le truc d'une baise à trois, quoi. C'est peut-être c'est un grand classique. Hein. Si ce n'est que je préférais une baise à trois avec moi, un autre mec et une fille, plutôt que moi et deux filles.
Généralement, les hommes hétéros préfèrent avec une nana et une autre nana.
Ouais, mais moi, les fantasmes lesbiens, je m'en fous. C'est-à-dire, par exemple, deux filles bi qui se touchent, qui se lèchent, qui font leur truc ensemble. Visuellement, c'est pas un truc qui m'attire particulièrement. Ça me dégoûte pas du tout, mais c'est pas un tag que j'utilise sur des sites de porno. Parce qu'en fait, dans la transgression, je trouve ça plus transgressif une fille avec une bite dans la bouche et une bite dans la chatte qu'un mec, en fait, qui est là à baiser successivement deux meufs, en sachant de toute façon, déjà, baiser bien une meuf, c'est très difficile. Donc, en baiser très bien deux, bah, c'est quasiment mission impossible. Je trouve ça plus transgressif et plus excitant, en fait, de me dire, si c'est vraiment bien fait et que ça se passe comme dans mon fantasme, le résultat, c'est que la meuf va surjouir et garder des super jolis souvenirs. Et voilà. Alors que finalement, moi, je ne jouerai pas plus parce que, a priori, j'aurai un, voire deux orgasmes. Et une seule femme peut largement me les procurer, ces deux orgasmes.
Et sur ce plan à trois, tu te verrais faire des choses avec le garçon ou pas
non.
du tout?
Non, mais sans que le moindre contact de peau soit problématique. Hein. Mais par contre, je ne me verrais pas le caresser, je ne me verrais pas l'embrasser, je ne me verrais pas jouer avec son sexe. Après, encore une fois, je ne l'ai pas vécu, ça se trouve en le vivant. Si le mec est super séduisant, a un corps qui me parle et qui s'y prend bien, peut-être qu'il pourrait m'amener vers des choses insoupçonnées. Hein. Je ne suis pas fermé à 100%. Maintenant, il se trouve qu'à 37 ans... chaque fois que j'ai vu des corps de mecs nus, aussi beau soit-il, aussi sexy soit-il, j'ai pas été émoustillé. Donc, je vois difficilement comment, d'un coup, j'aurais envie de sucer une bite, quoi.
C'est quoi un bon coup pour toi ?
Un bon coup, c'est de la passion. C'est-à-dire un partenaire, on va dire, voilà, homme ou femme, passionné. À ce moment-là, passionné par le cul, mais ça, c'est souvent un caractère passionné. C'est quelqu'un qui accepte de lâcher prise. Et plus le lâcher prise est profond et plus a priori la baisse va être chouette et l'orgasme puissant et ça puisque c'est quand même la finalité et puis quelqu'un qui s'occupe pas que de soi, enfin qui est pas ça vaut pour les mecs mais ça vaut aussi pour les filles finalement quelqu'un qui est pas trop auto-centré quoi. Si la nana pense trop à elle et s'occupe pas trop de toi et se pose pas la question de je sais pas, tiens, à un moment, il bande un peu plus mou, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, etc. T'as des filles, avant même que ça arrive, qui vont avoir le... Bah, qui pensent tellement à leur partenaire qu'ils vont anticiper le truc, qu'ils vont être là au bon moment, qu'ils vont te faire te caresser au bon moment, un truc que t'avais pas imaginé qu'elle caresserait à ce moment-là et qui relance le truc. C'est de l'altruisme, quoi. Voilà. Le fait de penser à l'érection de l'autre et de penser au plaisir de l'autre, quoi. À son confort. Je crois que c'est ça, un bon coup, quoi. Quelqu'un qui aime le cul, qui est passionné et qui pense pas qu'à sa gueule. Et puis, il y a un truc aussi chez les femmes, c'est désacraliser l'orgasme aussi. Ça, c'est important parce qu'une femme qui est obsédée par son orgasme et un mec qui est obsédé par lui donner un orgasme, si ça devient un poids, ça casse tout, quoi. Et de se dire, en fait, on s'en fout, ça se trouve, on va arrêter de baiser au bout de 5 minutes parce qu'on va être fatigué, mais les 5 minutes, elles vont être intenses. Ça se trouve, on va baiser une heure, mais il n'y aura pas d'orgasme au bout et ce sera hyper chouette comme ça. Et puis, si ça se trouve, il y aura 5 orgasmes d'affilée, on ne les aura pas vus venir et forcément, ce sera un super souvenir. Mais ne pas sacraliser cet orgasme ni masculin ni féminin, se dire, voilà, c'est le bonus, quoi, c'est une bonne surprise ou si elle n'est pas là, c'est pas grave, en fait. Parce que ça, j'ai déjà été confronté un peu à ce truc-là. Cette pression de l'orgasme qui vient, qui monte, puis qui redescend, puis qui monte et qui redescend. Et puis la fille qui stresse parce qu'elle se dit « Merde, je vais pas y arriver, il va être déçu. » Et puis toi, tu sens que ça monte et ça redescend. Tu te demandes ce qu'il faut faire pour pas que ça redescende au dernier moment.
Et puis ça devient un enjeu.
Ouais, quoi. Ça devient un enjeu. Et alors que, voilà, pour revenir au lâcher prise, il faut que... Quand je dis lâcher prise totalement, c'est se branler de l'orgasme, c'est se branler de tout ça. C'est juste penser à donner du plaisir à l'autre, quoi. Du mieux que tu peux.
C'est marrant parce que à la fois, t'as une vision très... honnête de la sexualité et en même temps tu l'intellectualises beaucoup. Quand je dis honnête, c'est qu'en fait tu laisses beaucoup parler les corps dans ce que tu racontes.
Ouais.
Et en même temps tu l'intellectualises beaucoup.
Bah a posteriori, ouais. Pendant, j'évite parce que si tu réfléchis pendant que tu baises à autre chose qu'au plaisir de ta partenaire et à ton propre plaisir, t'as vite fait de sortir un peu du jeu et c'est jamais très bon. Mais après coup, je réfléchis parce que. C'est aussi l'expérience, quoi. Au bout d'un moment, tu as eu un certain nombre de partenaires. Tu as vu qu'elles ne fonctionnaient pas toutes de la même façon, mais qu'il y avait quand même des trajectoires qui se recoupaient par moment et qu'il y avait une sorte des choses à retenir pour ne pas refaire les erreurs ou des choses à améliorer pour fluidifier les choses. Et ça, j'y réfléchis pour être un meilleur amant et puis moi-même pour prendre plus de plaisir dans mes relations sexuelles, quoi.
T'as eu beaucoup de conquêtes ?
Bah, beaucoup, je sais pas trop ce que ça veut dire. J'ai jamais vraiment compté, mais ça c'est entre dans une tranche un peu en dessous de 100, quoi. Je sais pas, 80, un truc comme ça, dans ces eaux-là, c'est beaucoup.
Je juge pas.
Je sais pas, non, mais moi j'ai l'impression que, bah, oui, par rapport à la moyenne, les chiffres qu'on va donner statistiquement, je sais pas d'où ils sortent en plus, parce que les gens, s'il y a bien un sujet sur lequel les gens doivent mentir sur des sondages et tout, c'est bien le cul. Donc quand on parle d'âge moyen de la sexualité chez les hommes, chez les femmes, de nombre de rapports avant le mariage, avant les enfants et machin, je crois pas en ces chiffres. Donc ça peut paraître beaucoup. Et en même temps, je connais aussi des filles déjà qui sont à peu près à ce chiffre-là et assez nombreuses et des mecs qui éclatent ce chiffre-là en 2 ans, quoi. Donc moi j'ai quand même été longtemps célibataire, donc c'est quand même entre 17 et 37, c'est-à-dire en 20 ans. Tu comptes 80 sur 20, ça fait 4 par an, c'est rien en fait. Quand t'es célibataire, après oui. Si t'es resté 10 ans en couple et que t'as été fidèle, forcément tu niques ta moyenne. Mais moi en l'occurrence, j'ai jamais resté 10 ans en couple, donc forcément okay. 4 par an. Mais je trouve pas que ce soit beaucoup, moi, honnêtement. Si et pourtant je suis pas Brad Pitt. Malgré tout, si j'avais vraiment été dans la consommation pure. En étant un jeune célibataire actif à Paris dans les années 2000-2010, avec la multiplication des sites de rencontres, la multiplication des... Moi, j'ai eu un boulot où j'ai beaucoup changé de boîte, où je rencontrais beaucoup de filles différentes tout le temps. Si vraiment j'avais été très gourmand, le chiffre, il serait triplé, quoi. Donc je trouve que j'ai été plutôt gentil, en fait. Et puis même, moi-même, j'en suis revenu à un moment du cul pour le cul, donc ça fait aussi 3-4 ans là, que je consomme beaucoup moins. Puis j'ai eu des amoureuses entre-temps, quand même, ça... Donc je sais pas si c'est beaucoup. Tu trouves que c'est beaucoup, toi ?
Moi, j'ai pas d'avis. Hein. Non, mais c'est... Je suis neutre. Non, mais c'est beaucoup et pas beaucoup. Tu mets 80 filles dans une pièce, c'est beaucoup. là, comme ça, on les invite toutes à une soirée, ouais, c'est beaucoup.
Ouais. Ah, ça serait cool.
Ce serait sympa. Enfin, peut-être pas pour tout le monde. Mais... Et en même temps, comme tu dis, ça fait 4 par an sur 20 ans. C'est quoi ton rapport aujourd'hui à la masturbation ? T'es revenu un peu de tout ça, t'expliquais, tu vois, tu consommes, si on prend le terme que t'as employé tout à l'heure de consommation, tu consommes un peu moins. C'est quoi aujourd'hui ?
Je consomme mieux, bah, de toute façon je pense qu'en vieillissant, c'est un peu ça, que ce soit l'alcool, la drogue, les légumes, ouais, quand t'as 20 ans, tu manges, moi je continue à manger n'importe comment, mais par contre, pour ce qui est des choses sérieuses, la picole, la drogue, etc., j'essaye de prendre des produits de très bonne qualité, quitte à en consommer moins. Et là, en l'occurrence, je sais que c'est pas des produits, mais j'essaye de vivre des expériences sexuelles de qualité et de faire passer la qualité avant la quantité.
La question était sur la masturbation.
Ouais, alors la masturbation, bah, je l'ai toujours vécu plus ou moins de la même façon, la masturbation, c'est-à-dire que ça a toujours fait partie de mon quotidien. Mais je crois que, quand j'en parle à des copains, j'ai l'impression que c'est partie du quotidien de tous mes copains, donc je vais pas parler au nom de tous les hommes sur Terre, mais je crois que chaque mec, les mecs se branlent tous les jours, globalement, quoi. Après, moi, c'est plusieurs fois par jour, donc peut-être que je suis un peu au-dessus de la moyenne. Mais j'ai un rapport très simple et très décomplexé par rapport à ça. J'aime bien masturber avec une fille. J'adore le faire à deux, en fait. Je trouve ça hyper sexy.
Donc chacun se masturbe ?
Ouais, chacun se masturbe, ou même juste moi. Après, il faut que ce soit emmené. Hein. Je ne suis pas là au petit-déj à venir me branler devant elle sans qu'elle ait rien demandé. Mais à un moment donné, voilà, tu viens de baiser, machin, t'as une érection qui revient... Tu te dis en même temps, c'est peut-être pas le moment de remettre tout de suite le couvert. Donc, tu vois, naturellement, se toucher un peu. Et si tu vois que c'est le bon moment et que ça peut exciter la fille, bah, elle te regarde, elle t'aide un petit peu. Elle vient poser sa bouche au-dessus de ton sexe pour... voilà. Ça, j'aime bien. Je trouve ça super sexy. Le faire à deux, je trouve ça génial aussi. J'adore regarder une fille se masturber. Et puis, moi, quand je suis seul, je me masturbe à peu près deux... Les jours où je vais travailler beaucoup, ça va être 2 fois, quoi, matin et soir. Et les jours où je glande, ça peut être 4 fois, 5 fois dans la journée, quoi. Quand t'as le temps, pourquoi se priver, quoi ?
C'est gratuit ?
Ouais, c'est gratuit. Il se trouve que je suis encore dans un... Heureusement, j'en profite de plus en plus dans une tranche d'âge où les érections, elles montent assez facilement et elles redescendent pas trop. Donc, autant en profiter. J'ai 37 ans. Dans 10 ans, je sais pas si je pourrais faire toujours pareil, quoi.
Et tu te masturbes comment ? T'as des images dans ta tête et ça te suffit ? Ou t'as besoin d'un support visuel ou...
Les deux, mais de moins en moins. De moins en moins de support visuel. En fait, je crois que l'abondance de porno et d'images sexuelles partout, en fait, que ce soit les publicités, que ce soit les sites de streaming, que ce soit, enfin, partout, quoi, en fait. Tu t'allumes un réseau social, t'es abonné à des trucs, à des magazines, à des trucs. Enfin, quasiment un article sur deux, ça va parler de porno, ça va parler de sexualité, machin. Et je crois que cette surabondance de cul marketé, en fait, tout comme les streams, le stream porno, tu vois, ça, au début, c'était assez rude. Il y avait l'arrivée du porno amateur et tout, il y avait un côté un peu excitant. Sauf que maintenant, c'est du porno amateur produit pour jouer, pour refaire du porno amateur, mais produit avec, avec des gens qui se mettent en scène, etc. Et moi, en fait, toute cette mode-là a fini par me lasser. Et donc, de plus en plus, je me remémore. Si je suis amoureux d'une fille au moment T où on se parle, ce qui est plus ou moins le cas en ce moment, je vais me remémorer le dernier rapport sexuel que j'ai eu avec elle, un moment un peu qui m'a excité dans ce rapport-là, où je vais m'imaginer ce que j'aimerais lui faire la prochaine fois que je la vois. Et ça va plus être des images que je me crée, ouais.
C'est ton rapport au porno, du coup, là tu l'as brièvement expliqué, mais t'as consommé beaucoup de porno ?
Pareil, je sais pas si on peut dire beaucoup. Déjà, moi je suis partie de la génération qui a eu internet chez lui à 22 ans, je crois. Donc déjà entre 0 et on va dire 25, pour être large, j'ai quasiment pas consommé de porno, ce qui est rare pour les gens qui ont 25 ans aujourd'hui. Et puis j'en ai consommé, oui, j'en ai consommé pas mal, et je continue à en consommer. Mais en fait, je me rends compte que maintenant, quand j'arrive sur un site de porno, de stream de porno gratuit, j'ai même plus, tu vois, j'arrive, j'ai même plus de mots-clés à taper, quoi.
Vous allez te demander, c'est quoi tes tags ?
Je suis blasé. J'aime pas ce qui est produit, en fait, c'est-à-dire les films X à l'ancienne, tout ce qui est joué par des acteurs avec la sempiternelle Pip, Spoon et Jacques Facial, je peux plus regarder, ça c'est fini. En fait, le seul truc que je vais rechercher, si je crois que je tape orgasme.
Ok.
Alors, je suis un romantique du porno, quoi.
C'est beau.
Tu vois, il faut que la fille, que j'ai l'impression en tout cas, qu'elle
passe
soit
bon
qu'elle l'ait vraiment vécu, soit qu'elle est très très bien simulée, mais voilà, qu'elle ait passé un bon moment et que ça, malgré le fait qu'il y ait une caméra, etc., la fille est jouie. Et ça, c'est le dernier truc, je crois, qui m'excite, mais en fait, t'en trouves quand même assez rarement. T'as des compilations d'orgasmes sur ce genre de site, mais tu tombes toujours sur les mêmes, donc ça perd vite de son intérêt. Et en dehors de ça, de moins en moins, ça me désintéresse maintenant le porno. Et puis il y a eu toute cette mode du porno. Enfin, il y a toujours toute cette mode d'un porno plus intellectuel, fait par des femmes, etc. Et je trouve ça très intéressant d'un point de vue éthique, le fait que les femmes s'accaparent ce genre, le fait qu'elles le renouvellent, le fait qu'elles le scénarisent un petit peu plus, le fait qu'elles le destinent un peu plus à un public féminin. Que ce soit moins cliché, que ce soit moins violent, que ce soit que le rapport à la domination masculine disparaisse, enfin tous ces trucs-là, c'est archi nécessaire. Mais je comprends l'impact social et l'impact pour l'industrie et je le soutiens. Mais moi, de ce que j'en ai vu, hein, je suis pas un expert, mais j'ai pas trouvé ça hyper excitant. J'ai l'impression de revoir un petit peu des films en beaucoup mieux, mais des films un peu érotiques d'M6 sur lesquels je me masturbais quand j'avais 14 ans. Donc voilà, ça m'excite pas trop. Le porno, j'en reviens en fait. Je crois que j'en suis revenu. Ouais.
Est-ce que tu as des fétichismes ? Est-ce qu'il y a des choses pour toi qui t'apportent forcément une excitation ultime ?
Une fille nue sous sa robe, j'aime bien. L'été, bon, c'est difficile à vivre au mois de janvier. Mais l'été, alors le mieux, c'est si t'en as parlé vaguement sans être lourd à ta nana et qu'elle te fait la surprise un jour de te retrouver à une terrasse de café et qu'elle a ni petite culotte ni soutien-gorge et qu'elle trouve une façon subtile de te le montrer, etc. Ça, ouais, je sais pas si on peut appeler ça un fétichisme. Après, dans les objets, dans les tenues, dans les... J'ai pas de tendance ni BDSM, ni... je suis pas très dessous. Et la preuve étant que c'est plutôt l'absence de dessous qui peut m'exciter. Tout ce qui est dentelle, tout ce qui est dessous à friolant, je trouve ça un peu ringue. Je sais pas, il y a quoi comme fétichisme en fait ?
Il y en a plein.
Non, mais je sais pas, moi je pense tout de suite
t'as, à. T'en as plein, t'as des matières, t'as effectivement des accessoires comme des talons, comme des sous-vêtements, des porte-jartelles, t'as le BDSM où tu t'attaches, il y a plein de choses.
Non, mais s'attacher, oui, je trouve ça excitant hein, dans l'idée, mais tu vois, c'est pas une obsession quoi. Après, tu restes pendant un an, deux ans, cinq ans, dix ans avec une nana, évidemment, il y a un moment. Ce délire de dominant-dominé, de soumission, etc., il peut rentrer s'il est, il y a une envie mutuelle, évidemment, ça sera testé. Mais je suis pas là, c'est pas le premier, je vais pas réclamer quoi.
Tu vas me donner trois choses. Alors ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, mais qui ne sont pas sexuelles, mais toi qui t'excites, des stimuli qui t'excitent.
Qui sont pas sexuels.
Ouais. qui sont pas à vocation d'être sexuelles à la base, mais qui toi vont t'exciter.
Des choses qui peuvent m'exciter, alors qu'on n'ont pas pour vocation. Si, bon là je vais prendre un exemple qui est récent d'une fille que j'ai rencontrée, c'est une fille qui a beaucoup de caractère. J'aime pas forcément les filles grande gueule, mais tout comme les mecs grande gueule, hein, ça, dans les deux cas, c'est pas du sexisme, c'est juste que les gens qui parlent trop fort et pour rien dire, c'est rarement très intéressant. Mais une fille vraiment qui, dans une situation bien concrète, montre qu'elle est insoumise, qu'elle a du caractère et que tu lui fais pas à l'envers et qu'elle est maligne, etc. Si c'est bien fait, ça peut être générateur d'excitation chez moi. Mais bon, ça va pas non plus me coller une énorme érection. Hein. C'est plus, je vais me dire, tiens, cette fille, à mon avis, ça a un bon coup. Ça doit être chouette de jouer un peu avec elle. Après, sinon, un truc qui n'aurait pas pour vocation d'être sexy.
Mais ça peut être, je vais te dire n'importe quoi, mais ça peut être un parfum particulier, ça peut être un geste particulier, ça peut être...
Non, les dos nus. Les dos nus. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Mm-hmm. Mais je dois avouer que... Ou une nuque. Moi, j'aime bien les cheveux longs. Et une fille qui a, je sais pas, pour une raison X ou Y, qui à un moment va relever ses cheveux, va se faire un chignon par pur aspect pratique, etc. Et qui va dévoiler sa nuque, si elle a une jolie nuque, ça peut être quelque chose. La nuque et le dos, dans la foulée. Ah si, il y a un truc, ah ouais si, là, en parlant de nudité, il y a un truc qui me rend complètement... je vais dire hystérique, non, mais qui m'excite vraiment beaucoup, alors qu'à la base... C'est pas non plus un truc attrape-érection. C'est les filles qui vont avoir un haut sans bretelles et qui vont dénuder une épaule. Mm-hmm. Avec ou sans soutif, ça je m'en fous. Mais alors l'épaule, tu vois, une épaule qui est masquée par la fringue et l'autre épaule. Et ça, ouais, je trouve ça ultra, ultra sexy. Bien plus qu'un décolleté plongeant, bien plus qu'une mini-jupe, bien plus qu'une paire de porte-jartelles, bien plus que tout ça, quoi. Une épaule dénudée... Ah ouais, je trouve ça magnifique, quoi. Et si, et une fille, les filles avec des, mais ça c'est un peu plus sexuel, mais une fille qui a une petite poitrine et qui va assumer le pouvoir érotique incroyable de sa petite poitrine et qui va ne pas porter de soutien-gorge. Bon, on revient un peu à la nudité sous les fringues, mais et de pouvoir deviner sans que ce soit ostensible et sans que ça se voit vraiment ses seins nus sous son t-shirt, etc. ou sous son top, je trouve ça très sexy aussi.
T'as un style de fille particulier ?
Non. Ah non, si on mettait les 80 dans une soirée, on se rendrait bien compte que non. En fait, la première fille avec qui je me suis dépucelé, elle était plantureuse avec tu vois, un 95C, la deuxième aussi. Donc en fait, à ce moment-là, quand j'étais jeune, j'avais vraiment l'impression que mon genre, c'était les filles plantureuses avec des poitrines opulentes, quoi. Et puis après, les circonstances ont fait que j'ai rencontré des filles qui étaient foutues complètement différemment et que je me suis rendu compte que tous les corps avaient leur intérêt et étaient beaux et tant qu'ils étaient assumés, et tant qu'il se passait quelque chose de chouette avec la nana. Donc en fait, j'ai pas de corps de prédilection. Moi, je suis pas très grand. J'étais avec des filles plus grandes que moi. J'étais avec des filles très petites aussi. Tu vois, c'est la plus petite de, je sais pas, peut-être 1m59 jusqu'à 1m80. Donc j'ai pas de principe de taille, je m'en fous. Et sur la fine, pas fine, je m'en fous. Couleur de peau, je m'en fous. Non. L'intelligence, quoi. Mais bon, c'est pas un style. Et puis tout le monde va dire ça. Non, j'ai pas de style. J'ai vraiment pas de style. Si, il y a un truc. Il y a un point commun, en tout cas dans les filles où il s'est passé un peu plus que du cul. C'est l'élégance. Voilà, ça, c'est mon critère numéro 1, je crois. C'est qu'une fille très belle, l'autre jour, je voyais qui ? Laurie Tillman, chez Ardisson. Elle est très belle, cette fille. Enfin, elle a pris un peu d'âge, mais elle est quand même très belle. Ancienne Miss France, me semble-t-il. Elle a dû être mannequin. Elle est parfaitement gaulée. Mais en fait, je ne fais pas de procès aux Miss France. Hein, y en a sûrement qui sont très classieuses, mais elle n'est pas classe du tout, de mon point de vue. Et je la regardais sur ce plateau et je me disais, tu peux avoir envie de la regarder, tu peux avoir envie de la trouver charmante. Mais ce manque de classe et ce rire un peu bêta fait que, en fait, sa beauté, pour moi, elle s'estompe tout de suite. Alors que des filles beaucoup plus moyennes sur le papier, ou sur 100 mecs, t'en as peut-être 3 qui vont se retourner sur elle. Si elle a une élégance folle, une démarche chouette, et que voilà, cette l'élégance, après c'est très subjectif l'élégance, mais ça c'est le style, ouais, c'est l'élégance.
Donc là aujourd'hui t'es amoureux?
Oui, je crois qu'on peut à peu près le dire. En tout cas, on passe de lettres. Mais bon, comme je te disais, comme au deuxième rendez-vous, généralement, je sais si je vais le devenir ou pas. Là, je peux à peu près... Je ne sais pas si on me permettra... Elle me permettra de le devenir complètement ou si elle me coupera peut-être l'herbe sous le pied avant. Mais en tout cas, a priori, oui, je vais l'être. Ouais.
Du coup, on va parler de après, de demain, avec ou sans elle dans l'histoire, mais...
J'espère avec.
Je te le souhaite, vraiment.
Ouais.
Tu crois à la fidélité?
Oui. En fait, c'est pas tant que je crois à la fidélité, parce qu'elle me paraît d'une certaine façon quand même illusoire, mais je ne crois pas en l'infidélité. Donc par défaut, je me dis, bon, la fidélité, je suis pas sûr, j'ai un doute. De l'autre côté, l'infidélité, je sais que ça, en tout cas moi, ça marche pas. C'est-à-dire que si je me permets d'être infidèle une fois, bah, en fait, t'ouvres la porte à deux fois et à trois et à faire nimpe, c'est évident. En tout cas pour moi.
Donc la fidélité de corps, pour toi, elle est évidente dans un couple qui doit marcher.
Bah, tu vois, là, pour l'exemple, ce que je vis actuellement, bon, c'est tout frais, on n'a pas posé de jalon par rapport à ça, on ne s'en est pas parlé. Et je me posais la question pas plus tard que cet après-midi, en me disant, est-ce qu'à un moment, je ne pense pas que d'elle, ça viendra d'elle. Donc je me dis, est-ce que je mets le sujet sur la table? Et je lui dis, voilà, toi, comment t'envisages notre couple? Est-ce qu'il faut qu'on soit fidèle? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est pas important? Et en fait, j'en suis venu à me dire, non, en fait, on parle pas. Après, si elle vient t'en parler, bah voilà, je lui répondrai plus ou moins ce que je vais te répondre maintenant en substance. Mais en fait, je me dis, n'en parlons pas, parce que j'ai envie qu'elle soit libre de faire ce qu'elle veut. Moi, j'ai envie d'être libre de faire ce que je veux. Et je crois qu'à partir du moment où on sera libre l'un et l'autre de faire ce qu'on veut, c'est là qu'on aura le plus de chances d'être fidèle, quoi. Alors que poser des limites dès le départ en disant, meuf, moi, le seul carcan dans lequel je peux m'épanouir amoureusement, c'est dans un carcan d'ultra fidélité. Tout de suite, tu poses des limites à la con qui font que t'auras qu'une envie, c'est de les transgresser à un moment ou à un autre. Donc je pense qu'il vaut mieux pas mettre de limites et que c'est la meilleure façon de pas chercher à les transgresser. Mais oui, j'y crois parce que je sors d'une histoire qui a duré quasiment 3 ans, j'ai été fidèle et sans non plus que ça soit insoutenable.
Elles durent souvent 3 ans, hein, tes histoires.
Oui, bah, de toute façon, neurobiologiquement, ça a été prouvé, Beck BD n'a rien inventé, ça a été prouvé que, à part des neurobiologistes émérites, qu'effectivement, d'un point de vue hormonal, la sécrétion chutait drastiquement au bout de la 3e année. Et qu'après, il fallait réinventer autre chose qui est moins basée sur l'attirance des corps, sur une envie de se baiser tout le temps, sur une envie de... À part des cas un peu exceptionnels, donc il faut se réinventer sur d'autres bases. Et jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé les partenaires avec lesquels j'ai réussi, ou j'avais envie tout simplement en fait, de me réinventer sur d'autres bases. Est-ce que j'y arriverai cette fois-ci? Je le souhaite. Mais oui, je crois en la fidélité, en fait. Je crois en... Et je crois que si à un moment l'un ou l'autre se sent plus capable de le faire, qu'il faut se le dire, il vaut mieux se le dire, puis voir ce qui se passe, quoi. C'est-à-dire, voilà, moi, je commence à être usé sexuellement, j'ai besoin d'autre chose, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Ça n'empêchera pas forcément que ta copine aille baiser ailleurs, mais en tout cas, il y aura eu l'alerte. À toi de prendre tes responsabilités, de te dire, ok, je vais essayer de trouver des solutions pour lui redonner foi au sexe avec moi, lui redonner foi à la séduction avec moi. Et puis ce sera peut-être un échec, et puis peut-être qu'elle ira baiser ailleurs. Et puis là, je préfère ne pas le savoir. Mais voilà, moi je pense que oui, on peut passer 20 ans en couple en se trompant une fois ou deux. Ça me paraît. Pour moi, c'est de la fidélité déjà. Se tromper une fois.
Ça compte pas.
Ouais, non, ça compte pas.
Donc l'érosion du désir du couple, tu penses qu'elle est inévitable?
Ouais, bah oui, elle est inévitable, ouais. Bien sûr. Elle est inévitable, mais enfin, la rapidité de l'érosion, elle est maîtrisable quand même. C'est-à-dire que déjà, si tu rencontres une nana, qu'au bout de 6 mois, tu te mets en couple avec elle, enfin, tu prends un appartement commun, et que tu prends un chat, et que tu commences à aller faire tes courses au Monop tous les samedis après-midi à 14h, avec ta meuf, aller acheter ton paquet de riz et tes sushis surgelés. C'est évident que l'érosion, si ça arrive à tenir 2 ans ou 3 ans déjà de cul à peu près épanoui, faut s'accrocher. Et à contrario, je pense que si tu es dans un couple qui libre, dans le sens où tu laisses beaucoup de liberté à l'autre, où tu n'es pas tout le temps collé l'un à l'autre, où tu repousses au maximum la vie commune, et où tu ne te vois pas tout le temps, où tu voyages un peu l'un sans l'autre, où tu te laisses libre et machin, et que tu privilégies les moments chouettes et tu t'évites au maximum les moments contraignants. Pas facile, hein, c'est de la théorie, mais je pense que l'érosion, tu peux quand même, avant qu'elle arrive, tu peux tenir, quoi. Donc oui, ça se maîtrise, l'érosion, complètement. Après, elle aura lieu quand même. Il y a bien un moment, si tu décides de faire des gosses, où faut faire appartement commun, où faut torcher le gamin, où faut se montrer pas sous son meilleur angle, où il y a des problèmes sur l'éducation du gamin qui font que t'as pas forcément envie de ta levrette une heure après quand tu vas te coucher, que t'es crevé, que... Bon, bah ça, oui, faut le bouffer et trouver des solutions à ça, mais... Donc ouais, l'érosion, elle a lieu. Après, je pense qu'il y a moyen de... J'ai une copine là qui me parlait d'un couple d'amis. Ils baisaient plus, ils s'en sont parlé. Ils se sont dit, allez, on va tester des clubs échangistes. Ils ont fait une soirée dans un club échangiste. Je sais pas exactement ce qui s'y est passé, hein, j'ai pas posé la question, mais j'imagine qu'ils ont consommé. Je sais pas si c'était individuellement, à deux, comment. Toujours est-il que ça a reboosté leur libido vraisemblablement. Genre des mois après, c'est reparti comme en 40, quoi. Donc, un autre pote qui me disait, sa nana, il commençait à la tromper, mais régulièrement avec la même meuf, et il se fait griller avec l'iPad qui était connecté, enfin, tu connais le truc, hein. Et elle chope un texto qui arrive, elle était en train de mater, genre, sa série sur l'iPad, et bam, le texto qu'il fallait pas, du coup, elle va fouiller dans toutes ses messageries, il se fait archi griller comme un bleu et tout. Et donc là, il y va, quoi, avec ses couilles, il lui dit, ouais, mais attends, qu'est-ce qui se passe le soir? Moi, je viens te retrouver. Toi, tu vas te coucher hyper. Tu vas te coucher plus tôt. Elle lui avoue qu'effectivement, elle va se coucher plus tôt. Lui, il fume son petit pétard tranquille devant sa série ou en écoutant de la bonne zik. Elle s'est déjà couchée. Elle a ses jouets et elle s'est fait jouir avec ses jouets. Et il la retrouve après et il lui a dit, en fait, on a, sans le vouloir, ils ont trois gosses quand même, hein, dont le plus grand a 15 ans. Donc tu vois, c'est un couple déjà bien. Et ils ont mis carte sur table, quoi. Elle lui fait, oui, bah, j'ai moins envie de toi et moi je préfère utiliser mon god, jouer avec mon god et être tranquille. Et c'est vrai que le moment où tu me rejoins dans le lit, du coup, bah, moi mon désir c'est bon, il est passé. Lui il rentre dans le lit, il est défoncé, machin, et en plus il en base une autre, donc forcément, hein. Ils ont mis carte sur table, il me dit, ça fait un an que leur sexualité est redevenue comme au premier jour. Ils sont ensemble depuis plus de 20 ans, je crois. Donc je crois aussi à ça, au fait de quand le cul retombe, ne pas avoir peur de se le dire, quitte à faire un peu mal à l'autre sur le coup, hein, mais se le dire, quoi. Et pas mettre sous un tapis et attendre que vraiment ça soit complètement mort, quoi. Voilà, moi, si les conseils que je vais essayer à ma modeste échelle de m'auto-prodiguer, c'est ça, c'est de pas être trop l'un sur l'autre, de repousser le moment de vie ensemble, privilégier les jolis moments, d'éviter les mauvais, et puis le jour où ça baisse inévitablement... dialoguer au maximum, mais de façon assez cash, pour essayer de faire revenir les choses, puis après se dire, voilà, si ça marche vraiment pas, invitons une copine à baiser avec nous, invitons un copain à baiser avec nous, voyons ce que ça crée, voilà, voyons ce que ça passe. Je dis pas que ça peut tout résoudre, mais moi je suis assez optimiste, ouais. Bon, de toute façon, quand tu commences une histoire, généralement, tu commences à être amoureux, t'as envie d'être optimiste, t'as envie de croire que ça peut marcher. Et il y a des exemples, ils sont rares ici, moi en fait je m'appuie là-dessus. Je me dis, dans le couple, le problème, c'est qu'on a quasiment 90% des gens autour de nous qui se foirent. Parce qu'ils choisissent la mauvaise personne, parce qu'ils se laissent aller trop vite, parce que, pour des raisons X ou Y, parce qu'ils ils se laissent tenter trop facilement par l'infidélité à des moments où ils n'auraient pas dû. Donc en fait, on a que autour de nous des couples qui se sont foirés. À nos âges, en plus, maintenant, à 37 ans, machin, et avec les gosses en plus. Et du coup, on se dit, oh, ça n'existe pas. De toute façon, on est tous condamnés à vivre cet enfer du couple qui va s'autodissoudre au bout de 3 ans ou 10 ans et ce sera fini. Mais moi, j'ai quand même vu autour de moi un certain nombre de couples qui représentent les 10% restants qui, au bout de 5 ans, 10 ans, 20 ans, continuent à baiser. Alors, ils ne baissent pas comme des lapins 5 fois par jour comme au début, mais ils continuent à baiser plusieurs fois par semaine de façon épanouie, qui continuent à s'aimer. Où dès que tu les vois, ils sont en train de se bécoter. Ils sont contents, ils ont des gosses, enfin, tu vois le truc qui est cool, quoi, où tu dis ils sont bien choisis, ils sont bien trouvés, donc ça existe. Bon, bah, y a un moment, je me dis, si certains y arrivent, il n'y a aucune raison que j'y arrive pas, quoi. Il faut avoir de l'ambition, quoi. Et je trouve que la plupart des gens autour de moi manquent d'ambition sexuelle, amoureuse.
C'est quoi le mot de la fin?
Le mot de la fin, bah, j'en aurais deux. C'est le premier, c'est que moi, je trouve ça chouette d'avoir un podcast qui soit consacré... même si finalement en parlant de la sexualité masculine, on parle du couple, on parle de... et on parle aussi de la sexualité féminine, mais d'un point de vue masculin, et en l'occurrence masculin hétéro pour ma part. Et je trouve ça assez chouette parce que, au même titre que c'est hyper intéressant d'entendre parler des femmes de leur sexualité, je trouve que c'est un sujet assez passionnant, qui n'est pas assez traité, et où il y a plein de choses à... Moi, je vais apprendre sûrement plein de choses en écoutant dans un interlocuteur que tu auras interviewé, et je trouve ça intéressant de le faire. En même temps, tu fais une petite introspection qui est intéressante. C'est la première chose. Et puis la deuxième, peut-être de se dire que de toute façon, on est quand même dans une société où on nous pousse à consommer toujours plus mal. Et je trouve qu'à l'image de cette société de consommation, quand même, le cul est devenu mercantile, quoi. C'est-à-dire, voilà, les sites de rencontres, je trouve ça très bien que ça existe, mais enfin, il ne faut pas que ça prenne trop de place. Je pense en tout cas qu'il ne faut pas que ça prenne trop de place. Et peut-être ramener aussi le cul à sa fonction, à son origine, quoi, à quelque chose de simple, de naturel, auquel on a tous accès, sans discrimination de couleur, de peau, d'intelligence, de milieu social, et de leur vivre comme ça, comme quelque chose de simple. Et en fait, je pense qu'on se poserait quand même beaucoup moins de problèmes, quoi. Tu vois, le fait que depuis 10 ans, il y a un article féminin, la presse féminine sur deux sur l'orgasme féminin, forcément, au bout d'un moment, ça crée des problèmes. Le fait qu'un article sur l'autre article sur deux de la presse féminine soit sur les pervers narcissiques, est-ce que le mec que vous avez rencontré est un pervers narcissique, ça pose un problème, parce que finalement, statistiquement, je crois que c'est 7% des hommes, donc c'est quand même pas si énorme, même si c'est 7% de trop. Et aujourd'hui, tu es une terrasse de café à Paris, tu as un groupe de meufs sur deux qui te parlent soit de leur orgasme, soit de leur pervers narcissique qu'elles viennent de quitter. En fait, maintenant, le cul est synonyme de danger. Alors, on ne parle même pas des MST qui vont par-dessus et tout. Et on ne parle que des choses négatives du cul. Parlons du positif, rendons-lui son essence de départ, qui est de se faire plaisir, sans contrainte, sans se prendre la tête, sans trop l'intellectualiser. Et je pense que, du coup, là, d'un coup, on arrivera à être fidèle sur le long terme, on arrivera à kiffer le cul, quoi. Les hommes comme les femmes, les hétéros comme les gays, quoi.
Donc, le mot de la fin, c'est kiffer le cul.
Ouais, qui fait le cul et naturellement, quoi.
Ouais. Ok, merci.
De rien.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour votre écoute. Si vous avez aimé ce podcast, faites-le savoir autour de vous. Et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de On the Verge.